For a long time, she sat rocking with the girl held tightly to her sunken breasts. Janie's long legs dangled over one arm of the chair, and the long braids of her hair swung low over the other side. Nanny half sung, half sobbed a running chant prayer over the head of the weeping girl.
Lord have mercy. It was a long time on the way, but I reckon it had to come. Oh, Jesus, do Jesus. I done the best I could.
Pendant un long moment, elle resta ainsi, berçant la jeune fille et la serrant fort contre son sein creux. Les longues jambes de Jenny pendaient par-dessus le bras du fauteuil, et ses longues nattes se balançaient bien bas de l'autre côté. Nanny, moitié psalmodiant, moitié sanglotant, entonna un interminable chant supplique au-dessus de la tête de Jenny en larmes. « Lord, aie pitié, ça a pris son temps chemin, mais j'ai idée qu'il fallait que ça arrive. Oh Jésus, doux Jésus, moi j'ai fait juste du mieux que je pouvais. » Maintenant, Jenny est mariée à un vieux fermier. Non, elle n'est pas mariée à un vieux fermier. Non.
Non, c'est toi, non.
Oui. Et puis, il est temps pour sa grand-mère de tirer sa révérence. Voilà. Nanny, la mine grave, renvoya Jenny chez elle, mais tout le long restant du jour, elle sentit son ardeur au travail s'étioler. Et quand elle eut retrouvé l'intimité de sa petite cabane, elle resta agenouillée si longtemps qu'elle en oublia jusqu'au fait qu'elle était là. Il y a dans l'esprit un bassin au-dessus duquel flottent les mots sur les pensées et les pensées sur les choses entendues et vues. Et puis, il y a des profondeurs de pensée que les mots ne peuvent atteindre, et plus profond encore, des gouffres d'émotions informes que les pensées ne peuvent atteindre. Et une fois de plus, agenouillée sur ses vieux os, Nanny pénétra dans cet infini de douleur consciente. Vers le matin, elle marmotta « Lord, tu connais mon cœur. Moi, j'ai fait du mieux que je pouvais. Le restant, je laisse ça pour toi. » Elle se releva péniblement pour aller s'affaler de tout son poids en travers du lit. Un mois plus tard, elle était morte.
There is a basin in the mind where words float around on thought, and thought on sound and sight. Then there is a depth of thought untouched by words, and deeper still a gulf of formless feelings untouched by thought. Nanny entered this infinity of conscious pain again on her old knees. Towards morning she muttered, Lord, you know my heart. I done the best I could. The rest is left to you. She scuffled up from her knees and fell heavily across the bed. A month later she was dead.
Alors, Jenny laissa enrouler un temps de floraison, puis un temps vert, puis un temps orangé. Mais les pollens de nouveau se mirent à dorer le soleil et se tamiser sur le monde, et elle recommença à se poster près de la barrière pour attendre qu'arrivent les choses. Quelles choses ? Elle ne savait pas précisément. Elle avait le souffle court et traversé de bourrasques. Elle savait des choses que personne ne lui avait jamais dites. Par exemple, la langue des arbres et du vent. Elle parlait souvent aux graines en les regardant tomber et leur disait « J'espère ça que vous tombez en terre douce » parce qu'elle avait entendu des graines se dire cela en passant. Elle savait que le monde était un étalon batifolant dans le pré bleu de l'éther. Elle savait que Dieu déchirait le monde ancien chaque soir pour en fabriquer un autre avant le lever du jour. C'était merveilleux de le voir prendre forme dans le soleil pour émerger des poussières grises. Les choses et les êtres familiers lui avaient failli, alors Jenny se penchait par-dessus la barrière et scrutait la route au lointain. Elle savait maintenant que le mariage ne faisait pas l'amour. Ainsi mourut le premier rêve de Jenny. Ainsi devint-elle femme. Alors, elle devint femme et elle choisit de partir avec son deuxième mari qui passait par là.
Vraiment.
Il était bien mis, tout ça. Et il s'appelait Joey Starks et il s'en allait faire de grandes choses. Et effectivement, ils arrivent à Eatonville. Il y avait quelque chose chez Joey Starks qui intimidait la ville. Ce n'était pas tant son physique. Il n'était pas prompt à user de ses poings. Sa stature même n'était pas si impressionnante pour un homme. Ce n'était pas non plus le fait qu'il fût plus instruit que les autres. Quelque chose en lui forçait les hommes à lui céder le pas. Il avait au visage un air de commandement qui leur imposait de baisser la tête. Et chacune de ses foulées rendait la chose plus tangible encore.
There was something about Joe Starks that cowed the town. It was not because of physical fear. He was no fist fighter. His bulk was not even imposing as men go. Neither was it because he was more literate than the rest. Something else made men give way before him. He had a bowed down command in his face, and every step he took made the thing more tangible.
Prenez par exemple cette maison neuve qu'il s'était bâtie. Elle avait 2 étages, avec des vérandas, des rampes d'escalier et ainsi de suite. Le reste de la ville à côté avait l'allure de cabanage à serviteurs autour de la grande maison. Et à la différence de tous les autres, il avait décrété qu'il n'y emménagerait pas tant que la demeure n'aurait pas été entièrement peinte, dedans comme dehors.
And look at the way he painted it. A gloaty, sparkly white. The kind of promenading white house that the house of Bishop Whipple, W.B. Jackson, and the Vanderpools wore. It made the village feel funny talking to him, just like he was anybody else.
Et la peinture, parlons-en. Un blanc exultant, étincelant, le genre de blanc de promenade qu'on voit sur les maisons des Bishop Whipple, des W.B. Jackson, des Vanderpools. Au reste de la ville, ça leur faisait drôle, lui parler comme ça, comme si c'était n'importe qui. Et puis, il y avait eu l'affaire des crachoirs. À peine s'était-il installé comme maire, receveur des postes, propriétaire terrien, commerçant, qu'il fit l'acquisition d'un bureau exactement comme ceux de Mr. Hill et Mr. Galloway là-bas, à Maitland, avec le fauteuil pivotant qui va avec. Et comme ça, de le voir mordre dans ses cigares et jamais gaspiller sa salive en parlotte et tournailler dans son fauteuil, les gens se sentaient tout diminués. Puis ils crachaient dans ce vase doré que n'importe qui d'autre aurait été bien content de mettre sur sa table de salon. Disaient que c'était un crachoir tout comme celui que son bossman d'avant gardait dans son bureau de banque là-haut à Atlanta. Pas besoin de se lever pour aller jusqu'à la porte toutes les fois qu'il avait à cracher. Ni d'ailleurs de cracher sur son plancher, vu qu'il avait ce crachoir tout doré, juste à portée de main. Mais il alla plus loin encore. Il acheta un petit crachoir de dame pour Jenny, l'exposa dans le petit salon avec tous ses petits brins de fleurs peints autour. Les gens, ça les avait pris de court. La plupart des femmes prisaient et bien sûr, elles avaient toutes un godet à cracher chez elles. Mais comment pouvait-on savoir que les ceux et celles qui étaient à la dernière mode s'accrachaient dans des petites choses fleuries comme ça? Les gens avaient, comme qui disait, le sentiment qu'on était en train de profiter d'eux, comme si on leur avait caché des choses. Peut-être qu'en dehors de cette histoire de crachoir, il y avait bien d'autres choses du monde qu'on leur dissimulait, vu que pendant tout ce temps, on leur avait rien dit de mieux que de cracher dans des boîtes à tomates.
It was bad enough for white people, but when one of your own color could be so different, it put you on a wonder. It's like seeing your sister turn into a gator, a familiar strangeness. You keep seeing your sister in the gator, and the gator in your sister, and you'd rather not. There was no doubt that the town respected him, and even admired him in a way. But any man who walks in the way of power and property is bound to meet hate. So when speakers stood up when the occasion demanded and said, "Our beloved mayor," it was one of those statements that everybody says but nobody actually believes, like, "God is everywhere." It was just a handle to wind up the tongue with.
C'était déjà bien assez pénible avec les blancs, mais quand c'était un de sa propre couleur qui agissait si différemment de soi, c'était vraiment à se demander. Comme voir sa propre sœur se transformer en alligator. Une étrangeté familière. On ne peut plus s'empêcher de voir sa sœur dans l'alligator, et l'alligator dans sa sœur, et on n'aimerait mieux pas. Il ne faisait aucun doute que la ville le respectait et même d'une certaine façon l'admirait. Mais tout homme s'acheminant vers le pouvoir et la propriété doit s'attendre à rencontrer la haine. Et quand l'occasion le réclairant, un discoureur se levait pour dire « Notre bien-aimée mère », c'était bien entendu l'une de ces choses que tout le monde dit sans que personne y croie, comme Dieu est partout. Juste une manivelle pour se remonter la langue. Voilà, un petit portrait de Joy Starks. Alors, il y a des tas de personnages. Et puis, en fait, tous ces personnages, là, on peut en parler. Je pourrais lire plus de passages dialogués, de voix qui s'élèvent, mais c'est un peu compliqué de les faire lire en anglais, parce que Myriam et Elisa se disent que voilà, elles ne se sentent pas légitimes.
Oui.
Bon, moi, je n'aurais pas de problème avec ça, mais en ce moment, il y a beaucoup de polémiques sur cette question-là. L'appropriation culturelle, tout ça. Mais en fait, c'est un livre. Donc, comme tout livre à vocation universelle, il a vocation d'être... Mais voilà. Là, les passages qu'on a lus ne donnent pratiquement qu'une... Enfin, que la moitié du roman, parce que en fait, il est au moins à moitié, sinon plus, constitué de joutes verbales entre les personnages, soit dans le village, dans la ville Eatonville, ou bien dans le chemin de Jenny, aux endroits où elle s'installe. Et le livre est construit vraiment autour de ces moments d'échange et de joutes verbales. Et c'est ce qui fait l'identité de ce roman si particulière. C'est vraiment ce qu'elle a voulu construire et qui n'a pas du tout été compris à son époque par ses contemporains qui ont... alors c'était très étonnant parce que la réception de son livre, les élans étaient contradictoires, mais disaient comme ça, tous les critiques et écrivains noirs qui étaient des amis de Zora Neale, des frères de lutte du mouvement Harlem Renaissance, enfin, tous ont craché sur ce livre, le jugeant indigne, parce que, évidemment, dans ce mouvement de lutte, la plupart des textes, ou tous les textes, étaient écrits dans une langue édifiante, la langue blanche, parce qu'on raconte dans cette langue belle la douleur du peuple noir et la lutte. Et elle, ce qu'elle fait et qui n'a pas du tout été compris, c'est raconter la puissance de ce peuple noir par sa langue. Et c'est cette langue qui lui donne toute sa puissance. C'est ce qu'elle dit au début quand elle ces bouches toutes puissantes qui sont toutes puissantes et pour le mal, enfin pour les invectives, mais aussi pour la beauté du monde, dire la beauté du monde par cette manière de voir le monde qui construit une identité propre à la population noire des États-Unis telle que Zora, elle, l'aperçoit, l'a vécu, en fait.